voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Salut mon Luc!
Salut Eric, ça va?
Ça va, écoute, ben ça va. Je sais pas, là, honnêtement, le budget hier, ça m'a mis en joie le vert. Puis là, je viens de parler à Carlos Slater, puis je suis encore plus enragé. Il y a quelque chose que je comprends pas. T'sais, on dit toujours que la CAQ, c'était le parti supposément à droite. Il augmente les dépenses de 5,4% l'année passée, 5,1% cette année. Les revenus sont même pas la moitié, la croissance des revenus est même pas la moitié de tout ça. Puis là, il arrive une crise. Ils ont même pas parlé de ça dans le budget hier. Ils prévoient encore une croissance qui a rien à voir avec ce qui va se passer dans la prochaine année. Ils prévoient encore que le baril de pétrole est très élevé. Ils prévoient, ils ont pas un mot sur le coronavirus. Je me demande où ce qu'ils vivent, la CAQ. Je suis découragé. J'ai voté pour eux autres, moi, Luc. Puis aujourd'hui, là, honnêtement, là, je suis découragé raide.
Ben, écoute, je pense que les racines adéquistes sont parties depuis déjà pas mal longtemps, là, hein?
Oui, mais on n'a pas élu le PQ, là, Luc, je m'excuse, ouais, là. Je comprends que Legault vient de là, mais...
Ben, essentiellement, soyons francs l'un avec l'autre, là. Hein? La CAQ a été élue en promettant d'enlever le voile sur la tête des femmes musulmanes
et
puis de réduire l'immigration. C'est ça qu'ils ont fait élire.
Mais ils nous ont promis 1 000 $ de baisse d'impôts. Peut dire que moi, je n'ai pas oublié ça.
Alors, moi, écoute, tout ce que tu viens de dire, là, c'est exactement ce que je pense aussi. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un paquet de gens qui se réjouissent parce que la liste d'épicerie inclut leur gang. Tu comprends? Le saupoudrage les touche un peu. Alors, ils disent, c'est le merveilleux budget qu'on n'a jamais vu, un beau budget comme ça. Maintenant, ils disent qu'ils mettent 130 milliards sur 10 ans pour les infrastructures. Correct. C'est correct. Ils vont prendre la main-d'œuvre où?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Mais c'est la même chose, alors, est vraie pour la DPJ, la même chose est vraie en santé. À fin de l'année prochaine, ils vont nous dire qu'il y a un surplus parce qu'ils n'ont pas été capables de dépenser l'argent parce qu'ils ne trouvent pas de monde pour engager.
Ben là, mais alors, tu sais, c'est un budget... Moi, je trouve que c'est un budget de... un budget de guignol. Là. C'est pas, ça n'a pas de bon sens. D'abord, pas un mot sur le coronavirus. Ça peut pas ne pas avoir d'effet sur l'économie. À l'heure actuelle, il y a quelques-uns de nos partenaires commerciaux qui ont fermé à shop. Je pense à l'Italie, par exemple. Puis à la France. Puis
la Chine, qui n'est pas le mineur sur la planète non plus.
Puis la Corée du Sud, et patati et patata. Et nous, qui commençons graduellement à être touchés. Pas un mot concernant cette crise-là. Et comme tu dis, aucun ajustement aux prévisions. On continue plein régime. On augmente les dépenses de 5,1% quand il n'y a pas d'inflation ou presque pas dans l'économie.
On met tout à l'environnement alors que les gaz à effet de serre, même la Chine n'en émet plus, tu sais.
Ça, c'est sûr. Ça n'a jamais aussi bien été pour la réduction des gaz à effet de serre. Les pays ferment la chope. Alors, moi, je trouve que c'est un budget à la limite du ridicule. Parce que tu peux pas faire un budget comme ça puis arriver puis dire, bon, la crise du coronavirus, on va laisser ça à ma collègue Mécan, parce que moi, tu comprends, je table sur les mêmes prévisions que j'avais avant la crise du coronavirus. Deuxièmement, donc pas un mot, pas rien. Là. Deuxièmement, à côté de ça, t'as cette idée que on va engager du monde à appel dans le système de santé, dans l'éducation. On va faire la même chose dans des infrastructures, on va dépenser des dizaines de milliards de dollars, puis on n'a pas de main-d'œuvre. Alors, comment veux-tu que ce budget-là ait la moindre crédibilité? Il y aurait au moins dû, les deux cas que je viens de mentionner, là, la crise qui vient d'être décrétée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Ça, et puis le fait qu'on n'a pas les moyens de livrer ce qu'on promet... On n'a pas les moyens carrément, pas ensemble, pas juste au sens monétaire, là, je parle, on n'a pas les moyens humains, on n'a pas les ressources pour livrer la marchandise. Alors, je trouvais que ce budget-là, je le regardais aller hier, je me disais, mais coudonc, il rit-tu de moi, là?
Mais en même temps, là, Luc, puis là, tu as été au gouvernement longtemps, puis tu as travaillé en politique, là, tu sais comment ça fonctionne. Ce budget-là, là, il n'a pas été non plus fait dans nuit de mardi à mercredi. Hein. Fait que ça faisait déjà 2 semaines qu'il était imprimé. Et eux autres, il fallait qu'ils le présentent, puis c'était prévu dans leur calendrier depuis l'année passée que ça allait être hier. Est-ce que c'est un peu ça le problème? Puis qu'est-ce qu'il aurait dû faire en gestion de crise? Est-ce qu'il aurait dû dire, à raison de ce qui se passe actuellement,
on
va leur faire dans un mois le budget? Parce qu'il n'y a pas
d'obligation. Nous revoyons nos données budgétaires à la lumière de ce qui est en train de se passer, parce que la crise du coronavirus, on est en plein dedans. Il aurait pu faire ce que tu viens de dire. Hein, il aurait pu dire, écoutez, compte tenu des circonstances, on va revoir certaines de nos approches, sans faire paniquer quoi qui que ce soit. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu aussi, la semaine passée, dire dans un élan de réalisme, écoute, je pense qu'on va s'asseoir avec les sous-ministres puis nos experts, on va refaire ça, parce que ça n'a pas de bon sens, je peux pas tabler sur la même croissance. Ça tient pas debout.
Il voulait présenter un budget vert. Il aurait dû l'envoyer au recyclage, leur budget. Ça aurait été le budget vert. Très bon, ça.
Non, moi, je trouve que c'est franchement un budget ridicule.
C'est pas
réaliste. Et tout ce qui est annoncé là-dedans, là, que les gens disent, bon... Puis, en passant, et là, je sais que je vais toucher une corde sensible chez toi, tu prends le cas de la protection de la jeunesse.
Oui. Hein?
La DPJ, puis tout ça. Moi, je suis loin pour avoir travaillé dans le gouvernement... d'être convaincu que c'est en ajoutant du cash que tu vas régler le problème.
Moi, je suis convaincu que c'est pire.
Moi, je pense que c'est pire.
Tu leur envoies le message que faites pas votre job, soyez incompétents, traitez les enfants comme de la merde, puis au lieu qu'on vous sanctionne, parce qu'il y a personne à ce jour qui a été sanctionné dans des PJ, là, au lieu d'être sanctionné, on va les graisser puis on va leur envoyer 450 millions.
Oui, mais puis il y a ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais il y a plus encore, on voit très bien, quand on regarde les problèmes qu'on a vécu, ceux qu'on connaît en tout cas, avec la DPJ, qu'il y a un problème bureaucratique, il y a un problème de prise de décision, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème d'allocation de ressources, il y a tous ces problèmes-là. Solution habituelle de la machine étatique, m'a ajouté du cash. Tiens, c'est drôle, ça. Pas sûr, moi. T'as raison, je pense que ça peut être pire.
Ben oui, il y a quelqu'un qui travaille à DPJ qui m'a écrit tantôt. Il me dit actuellement que les fusions de programmes du CITRIP3S, le personnel des centres jeunesse de la DPJ qui ont entre 15 et 30 ans d'ancienneté, ils sont tous en train de se ruer sur d'autres programmes ailleurs dans le ministère. C'est une catastrophe pour le service auprès de la clientèle jeunesse.
Bon.
Parce que les gens, la DPJ, ça va tellement mal, c'est tellement mal administré que les gens s'en vont. Fait que là, ils ont beau mettre de l'argent, ils vont avoir qui? Ils vont en tirer du monde qui n'ont pas de compétences. Ils sont en train de vider les gens qui sont déjà là depuis le plus longtemps.
Moi, ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est quand je pense que tu en avais parlé dans une de tes émissions, mais c'est quand ils sont arrivés avec l'idée qu'il y avait 4 enfants là, qui étaient laissés dans des conditions absolument monstrueuses, barbares même. Mais il n'y avait pas le temps de s'occuper de ce cas-là parce que la politique de la DPJ, c'est quand je prends un dossier, je le tiens jusqu'à la toute fin, jusqu'à la résolution du problème.
Ouais.
Alors, la femme qui devait s'occuper de ce dossier-là, elle n'avait pas le temps, ça y a pris des mois. Pourquoi? Parce qu'elle faisait de la médiation au sein d'un couple qui était divorcé, puis qui n'était pas capable de s'entendre sur la garde des enfants, puis sur...
La pratique de hockey, le jeudi soir, puis le samedi matin.
Ben alors, tu sais, c'est pas en ajoutant 200, 300, 400 millions dans ça que je règle ces conneries-là. C'est pas possible.
Ça se peut pas qu'il ait fait ça. Je sais pas. C'est vraiment vrai. Puis l'autre truc là que je trouve un peu, puis là, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, parce qu'à Montréal, vous peut-être que vous voyez pas ça de même, mais tu sais, la CAQ, nous autres, on a toujours eu l'impression que c'était les régions du Québec qui ont gagné. Et je regarde le budget, puis beaucoup des postes budgétaires, c'est quand ils mettent de l'argent dans l'environnement, puis pour les artistes, on s'entend là, que c'est moins dans les régions. Là. J'ai l'impression que la CAQ essaye de plaire à ses adversaires, puis elle donne rien à ceux qui ont voté pour elle. Il y a quelque chose d'antipolitique, je trouve, là-dedans.
Oui, bien dans le cas de la... loin de moi l'idée de me porter à la défense de ce budget-là.
Ah, mais t'as le droit, le Luc, le gars, t'es un acte libre, là.
Oui, oui, j'avoue, c'est sûr. Fais-toi sur moi, ils n'ont mangé quelques-unes de ma part depuis qu'ils sont au pouvoir. Je trouve que c'est un gouvernement complètement irréaliste et à la limite ridicule. Je veux dire, on est tanné devant des immigrants. OK, on va te couper ça, monsieur.
Mais on avait voté pour ça, Luc.
Oui, je le sais.
Ils nous l'ont dit en campagne
ça,
électorale. Mais... Le 1 000 $ de baisse d'impôts, ils me l'avaient dit en campagne électorale, puis ils le font pas. Moi, c'est pas quand ils remplissent leurs engagements que je les en veux, c'est quand ils remplissent pas leurs engagements.
Ben, il y a aussi le fait qu'il faut être réaliste dans la vie. Quand on arrive au pouvoir, puis qu'on réalise que le plus gros problème, en région en particulier, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Alors, tu es obligé, dans ce temps-là, d'agir avec réalisme, honnêteté et responsabilité, puis de dire aux gens, écoute, dans les circonstances actuelles, je maintiens les seuils actuels. Non! Ils ont zigonné après pour que ça descende à 40 000, puis ils font tout pour que ça ait toujours l'air fou quand ça concerne l'immigration. Je vais te dire une affaire. S'ils sont pas capables d'accélérer le mouvement de migration vers ici, leurs projets d'infrastructure, puis leurs bébelles à gosses, puis leur monde qu'ils vont engager à DPJ, puis tout ça, oublie ça.
Mais en même temps, j'ai l'impression que autant le problème de pénurie de main-d'œuvre, puis même l'environnement, je mettrais aussi ça dans... J'ai l'impression qu'avec l'instabilité économique qu'on est en train de connaître, c'est peut-être des sujets qui sont passés date. Dans le sens où la priorité du monde, là, ça va être de travailler puis de se trouver des jobs puis de créer de la richesse tout à l'heure, là. Je regarde aux États-Unis, Donald Trump a annoncé, là, qu'il jongle avec l'idée d'éliminer les taxes à la masse salariale. pour donner un break justement aux travailleurs puis pour stimuler l'emploi, pour éviter que la crise affecte les travailleurs. On est loin de ça au Québec, là.
Mais on est loin de ça. Trump vit un peu un problème comme on vit ici, là. Oui. Ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Écoute, leur taux de chômage est à 3,5. Les fameuses grandes entreprises qui sont devenues maintenant le cœur de l'économie américaine, qui sont sur la côte ouest en allant vers la Californie, là, à partir de Seattle jusqu'à San Diego, là, c'est là que sont les plus grands centres de recherche, puis les Apple de ce monde, puis les Microsoft, puis tout ça. Eux autres, ils n'en ont plus de main-d'œuvre. Ils n'en ont plus.
Fait que c'est.
Alors, soit que tu fermes la shop, ou ben non, tu arrêtes ta croissance, ou ben non, tu fais faillite. Les gens sont pas capables de réaliser ça. Ça me rend malade, Éric. Ça me rend malade.
Bon, ben là, calme-toi. Je vais te parler de politique américaine. D'abord, ça va te mettre de bonne humeur parce que le beau Joe Biden, hier, je pense, on peut-tu dire que c'est le dernier clou dans le cercueil de Bernie Sanders? Là, c'était-tu la fin des haricots hier au Michigan?
Moi, je pense que oui. Je pense même qu'il va annoncer qu'il se retire.
Ah oui?
Tu vois, le fait qu'hier soir, il a décidé de pas prendre la parole.
Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Écoutez, ben, là, pour les gens qui n'ont pas écouté ça, là, c'est systématique. Là. D'habitude, ils sont même déjà dans le prochain état où ils s'en vont pour essayer d'avoir des votes, puis ils font un discours pour commenter les résultats. Hier, silence radio du côté de Bernie Sanders.
Mais tu vois ça quand, ça, d'habitude?
Jamais.
Ben non, tu vois ça quand il se prépare à se retirer.
Ah, quand ils sont plus là, mais oui.
Là, il s'est dit, je dis rien, puis il y avait probablement des scénarios devant lui. Si on se fait planter X, Y, Z, bon, ils ont perdu. Ils ont tout perdu. Franchement, ils ont tout perdu. Et t'as vu hier le bon Joe tendre la main à Bernie.
Il était rassembleur hier.
Il était rassembleur. Mais Joe, là, j'ai bien de la misère à le prendre au sérieux. Bien de la misère à le prendre au sérieux. Puis je pense que. D'abord, je pense qu'il n'y a plus l'acuité intellectuelle qu'il a déjà eue.
Ça, c'est sûr. On l'a vu dans les débats.
Puis quand il l'avait, il se mettait dans le trouble. Gaffeur professionnel.
Il s'est pogné avec quelqu'un au Michigan. T'as vu ça cette semaine? Il s'est engueulé avec un gars là, sous contrôle des armes à feu. Mais ça, c'est pas. Tu fais pas ça quand t'es un chef puis tu vas être président des États-Unis. C'est assez bizarre, là.
Ben, de toute façon, tu sais, j'aimerais bien que quelqu'un qui tripe sur les démocrates aux États-Unis m'explique qu'est-ce qu'il représente, Joe Biden. Quelle politique met-il de l'avant? Que propose-t-il aux Américains? Une renaissance de l'âme du pays, puis des bébelles. Je l'écoute, ça me donne l'impression, tu sais, quand tu te couches dans le fond du bain, puis tu souffles, ça fait des ballons. Quand tu parles, ça me donne la même idée. C'est vraiment, je te le dis, là, c'est pas une blague, là, bien que c'en est une, mais c'en est pas une. Je veux dire, je l'écoute, là, puis il y a peu de gens qui me font ça comme effet. Je l'écoute, là, puis quand il finit de parler, je l'écoute attentivement. Là. Quand il finit de parler, je m'en rappelle plus ce qu'il a dit.
C'est vide.
C'est quoi? Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit. Si tu me disais qu'il était comment son discours hier, rassembleur. Mais après avoir dit ça, mais encore, rien!
Mais c'était son spin, là. Je te dis pas, je l'ai même pas écouté, parce que je m'endormais, j'ai trouvé ça plate. Mais ce que je peux comprendre aussi, c'est que l'establishment s'est tout mis en arrière de lui. Tous les candidats qui décrochaient, toute la machine s'est mise en arrière de lui, puis ils ont réussi à le faire passer, là. C'est ce que je vois, là.
Ben oui, c'est clair. Puis il y a Obama qui tirait les ficelles en coulisses, puis qui va sortir au bon moment pour dire comment Joe est un grand homme, et patati et patata. Mais ils n'ont pas compris, semble-t-il, que la raison pour laquelle un gars comme Donald Trump s'est retrouvé président, c'est que ce genre d'establishment-là, les gens ne veulent plus en entendre parler. C'est fini. Le Parti démocrate, c'était une machine, là, puis la machine était entre les mains de Clinton, puis avant ça, avait été entre les mains de quelqu'un d'autre, puis il y a une machine. Puis avec les délégués ex-officio pour être sûr qu'ils gardent un certain contrôle sur leur convention, puis et tout le reste. Là. Alors, Joe va être le candidat, Joe va en manger une, je pense. Bien que, si la crise du coronavirus se poursuit, l'économie américaine peut commencer à piquer du nez pas mal vite, hein? Pas mal vite. Et ça va nuire énormément à Donald Trump.
Mais en même temps, t'es-tu sûr que ça va nuire à Trump? Parce que Biden, penses-tu vraiment qu'il peut faire face à une crise, Christy? Ben, il a de la misère à se souvenir qu'il est candidat à la présidence américaine, pense encore qu'il se bat pour le Sénat. Je veux dire, pas sûr, j'ai envie de donner les clés de char, moi, là.
Ouais, mais d'un autre côté, je connais beaucoup d'Américains avec qui j'ai jasé, qui ont voté pour Trump et qui voteraient encore pour Trump malgré ses soirées avec Stormy Daniels, puis malgré son ignorance, puis sa vulgarité, puis patati, puis patata, il se bouche le nez, puis il vote pour lui à cause de l'économie. Mais s'il n'y a plus d'économie comme celle qu'on vit présentement... Ça peut être pas mal dur.
T'as raison que l'économie, des fois, les gens, c'est les beaux discours, c'est une chose, mais celui qui amène le pain sur la table, c'est une autre affaire.
C'est une autre affaire, en effet.
Luc Lavoie, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Toujours un plaisir, Éric.
Bonne semaine, bye.